Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Cette semaine, dans Des clés pour vivre, je reçois frère Marie-Olivier Guillou. Bonjour frère Marie-Olivier Guillou.
Bonjour Nathalie.
Depuis plusieurs années, vous vous intéressez tout particulièrement à cette figure dominicaine, le père Marie-Étienne Vessière, une figure donc dominicaine du XXe siècle. Il a été nommé gardien de la Sainte-Baume en 1900. C'est un frère qui était surnommé le bon à rien par ses contemporains et est paru récemment cet ouvrage aux éditions des Béatitudes, Consentir à l'amour. Et ce sont des lettres de cette figure dominicaine, père Marie-Étienne Vessière, peu connu du grand public, peu connu peut-être de vos propres frères dominicains, ou très peu.
Oh, quand même. Il est quand même assez connu dans les cercles dominicains. Mais c'est vrai qu'au-delà, non, il n'est pas encore très connu et c'est l'occasion de le faire connaître.
On peut vous demander, dans ces quelques premières minutes et ce premier entretien, comment vous avez rencontré cette figure dominicaine du père Vessière?
Oui, avec joie, parce que c'est vraiment un frère de cœur et puis un ami qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Je l'ai rencontré avant même de rentrer dans l'ordre dominicain, à un moment de ma vie justement où j'étais dans une grande nuit intérieure, à travers un petit livre, Prier le rosaire avec le père Vessière, qui n'était pas vraiment un livre d'ailleurs, c'était un recueil de citations photocopiées et puis grossièrement brochées, mais des citations et des paroles qui m'ont touché au cœur. Et puis, des années après, finalement, je me suis retrouvé moi-même à la Sainte-Baume, commençant ma vie dominicaine. Et j'y ai vu un grand signe et une confirmation, en tout cas, que le père Vessière m'accompagnait dans ma vie et me parrainait spirituellement, ici-bas, jusque dans la vie éternelle.
Vous parlez de parrainage.
Ah oui, c'est vraiment un parrainage. Ouais. Je suis persuadé qu'il m'a.
C'est peut-être beaucoup dire,
mais il m'a, enfin, m'a choisi. Je crois qu'il a pris l'initiative de me choisir à travers cette rencontre qui est passée par ses écrits, hein, pour me conduire là où je suis aujourd'hui. Et sa spiritualité est devenue la mienne. Et peut-être au fond, c'était déjà la mienne, mais il a fallu que je rencontre le père Vessière pour vraiment. Savoir qui j'étais à sa proximité et à son amitié, disons.
Alors, vous parlez de spiritualité du père Vessière. Quelle est cette spiritualité du père Vessière?
C'est celle de la toute petitesse. Voilà, c'est Thérèse dans l'Enfant Jésus, mais en version mariale, puisque le père Vessière a cette intuition qu'il va vivre la petite voie de l'Évangile, mais à l'école de Marie, qui est la toute petite, voilà. Donc mieux que la petitesse à l'école thérésienne, c'est la toute petitesse à l'école de Marie.
Alors à l'époque, le père Vessière ne connaissait pas du tout le message de la petite Thérèse
non,
de Lisieux.
Non, oui, c'est assez extraordinaire. Oui, c'est assez extraordinaire. Il vit déjà la petite voix sans connaître les écrits de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais c'est vrai qu'il le vit en Marie. Il a une grâce d'intimité très forte avec Marie et c'est peut-être là ce qui fait l'originalité de sa spiritualité. C'est très très beau ça. Son rapport à Marie est très beau.
Il est rentré dans l'ordre dominicain pour devenir un grand prédicateur, comme beaucoup de dominicains.
Trop péché mignon, oui.
Il s'est laissé surprendre. Ouais. C'était un autre chemin pour ce frère.
Oui. Sa vie d'abord est un enseignement, parce que quand il entre dans la vie religieuse en 1890, il commence avec beaucoup d'ardeur. Il se jette à corps perdu dans les études de philosophie, mais il va connaître Alors à l'époque, on parlait de surmenage intellectuel. Aujourd'hui, on dirait un burn-out caractérisé, et il va tomber dans une anémie cérébrale et physique totale. Il dira lui-même qu'il ne pouvait plus se concentrer plus de 20 minutes, et donc il risque d'être refusé à la profession solennelle. Finalement, il est quand même accueilli au sein de l'ordre dominicain dans la province de Toulouse. Et puis, l'ordination, on lui dit, c'est pas possible, vous serez incapable d'assumer le ministère sacerdotal. Et finalement, in extremis, il est ordonné prêtre, mais admissam, comme on disait à l'époque, simplement pour dire la messe, même pas pour confesser, il était incapable même de confesser. Et c'est vrai que cette expérience, cette déchirure initiale dans sa vie religieuse, où il perd tout, va déterminer tout son chemin spirituel.
Grand dépouillement.
Grand dépouillement, voilà. Il va consentir...
Est-ce que le frère Marie-Étienne comprend ce qui se vit pour lui ?
Ah non, au départ, il est dans une grande révolte. Hein. Il va passer par tous les stades un peu hein, de l'incompréhension, de la révolte, de l'amertume, de l'aigreur, de la colère aussi. Et puis, non seulement parce qu'il est diminué, mais parce que, aux yeux de tous, et d'abord de ses frères, il est considéré comme un rien. Donc c'est très difficile d'accueillir cette grande pauvreté devant Dieu, à ses propres yeux, et devant les yeux de ses frères. Mais c'est comme ça que finalement va se révéler en lui ce saint qu'on connaît et qu'on fréquente à travers ses écrits. Une grandeur spirituelle, dans une petitesse physique et intellectuelle.
Il a été une révélation aussi pour vous, apparemment.
Oui, parce que justement, si vous voulez, sa petitesse, sa pauvreté a rencontré la mienne à ce moment précis de ma vie où justement j'avais besoin d'avoir un frère qui soit pauvre comme moi. Et le père Vessière m'a aidé à consentir à ma propre faiblesse et à repartir dans ma vie religieuse et humaine aussi. Hein.
Donc on touche cette vulnérabilité, cette fragilité que l'on ne veut pas toujours accueillir.
Oui, oui. C'est ça. Oui. C'est le plus difficile.
C'est un peu le charisme, hein, au fond, de ce frère dominicain à travers cette figure.
Moi, je crois, oui. Je crois qu'il est donné.
De don, hein,
ouais, je crois qu'il est donné à l'Église pour ça.
Est-ce qu'il ne serait pas donné aussi à l'Église pour ce temps que nous traversons
aujourd'hui,
où on est réussir à tout prix. Ah oui, non,
je suis d'accord. À une époque où on refuse toute idée d'imperfection, de limite, où il y a un culte de la performance, de la rentabilité, de l'efficacité,
de la perfection,
même du perfectionnisme, c'est sûr que c'est une figure prophétique qui peut profondément consoler, hein, au sens fort du terme, nos contemporains, parce que on est vraiment humain quand on accepte notre finitude et nos limites.
Alors, qu'est-ce qui distingue cette vulnérabilité de la fragilité au fond, frère?
La vulnérabilité, je crois, c'est déjà une étape dans l'acceptation de ses pauvretés, de ses impuissances, de ses déficiences, de ses faiblesses, de ses blessures aussi. Être vulnérable, c'est avoir accepté, voilà, avoir intégré dans sa vie ces choses en nous qui nous gênent, qui nous humilient, qui nous dérangent et qu'on aimerait mettre au placard, qu'on aimerait dépasser pour être quelqu'un de bien dans sa vie.
Voilà, quelqu'un de reconnu aussi.
Voilà. Pour briller à ses propres yeux, aux yeux des hommes. Mais je pense qu'il n'y a pas de chemin humain et spirituel réussi sans cette condition. Qui est de consentir justement à nos faiblesses, à nos pauvretés.
Alors ce consentement à nos faiblesses, à nos pauvretés, et ce message au fond, et dans ces très belles lettres que l'on peut découvrir dans ce livre par aux éditions des Béatitudes, consentir à l'amour passe par un grand chemin finalement, inconfortable, mais de grand dépouillement, on ne comprend plus rien.
Oui, il faut accepter à un moment de ne pas comprendre, Le Père Vessière, d'ailleurs, le dit, hein, il faut chercher moins à comprendre qu'à s'abandonner au jour de grandes ténèbres et de déréliction intérieure, devant un échec professionnel, un échec conjugal, familial, devant un accident, devant nos pauvretés, nos misères, notre péché. Il faut s'abandonner à ce dessein de Dieu parfois mystérieux, mais qui passe par ces petites croix ou ces grandes croix dans notre vie.
Il a mis du temps, le Père Tessière, à accepter, à consentir. Alors, à ce chemin aussi.
C'est difficile de répondre à la question.
Et de confiance.
Mais d'après ce qu'il écrit, on peut imaginer que quand il arrive en 1900 à la Sainte-Baume, il arrive dans un grand combat intérieur. Il refuse d'accepter la réalité, hein, et cette pauvreté qui le marque et l'humilie. Et puis, dans les années 1905-1906, après cette rencontre avec Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, puisque le sanctuaire de la Sainte-Baume est dédié à Marie-Madeleine, eh bien, ouais, 5 ans après, il va dire oui de tout son cœur à Dieu, et ça sera le début d'une nouvelle vie pour lui.
Merci. Alors c'est le début aussi de cette série d'entretiens que nous entamons donc aujourd'hui pour toute cette semaine. Et puis merci à vous d'avoir dit oui. Vous avez donc écrit, et puis c'est un travail de 10 ans, hein, où vous avez recherché, on en reparlera au cours de ces entretiens, toutes ces lettres du père Marie-Étienne Vessière que l'on peut retrouver dans cet ouvrage, hein, « Consentir à l'amour ». Et ce sont donc des lettres que vous avez choisies, hein, pour cet ouvrage, oui, paru aux éditions des Béatitudes. père et frère Marie-Olivier Guillou. Donc Dominique, on vous retrouve demain dans cette même émission à la même heure pour peut-être faire ce cheminement et puis accepter, découvrir ces points de fragilité, de vulnérabilité, mais pour un meilleur combat et le bon combat. À demain, père.
À demain.